Merci beaucoup. Je voudrais commencer à remercier les organisateurs de ce colloque pour m'avoir sollicité pour commenter cet article de Michel Auriol, L'ordre des identités, paru dans la Revue européenne des migrations internationales en 1985. Michel Auriol, dont je sais de longue date l'importance pour la constitution de notre domaine de recherche et auquel je m'intéresse plus particulièrement depuis 2 ans, maintenant que je me suis décidé à m'intéresser à mon tour au portugais en France. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vais m'employer à présenter et à discuter ce texte qui est un jalon important dans une œuvre qui est originale, créative, tout particulièrement si l'on replace l'analyse de Michel Auriol dans le contexte de son époque où son approche est originale et aussi en décalage avec les orientations dominantes de la sociologie française de l'époque, telle qu'il les discute d'ailleurs dans sa thèse de doctorat soutenue en 1989 sous la direction de Georges Balandier en Sorbonne, c'est-à-dire notamment les orientations de Pierre Bourdieu, Raymond Boudon et Alain Touraine, qui étaient, on le sait, alors les figures majeures centrales de la sociologie française. Dans ce texte, Michel Auriol va en effet insister sur la nécessité pour les descendants d'immigrés de disposer de ressources identitaires pour échapper au risque de l'anomie créée par la situation migratoire, de disposer de ressources symboliques et culturelles qui permettent la construction de l'identité individuelle et qui sont à l'origine d'identités collectives et qui sont en cela un facteur d'ordre. L'ordre des identités, le titre de l'article dit le caractère provocateur de cet ouvrage, revendique un caractère de cet article, revendique un caractère provocateur dans une phrase du début des années 80 où la dimension identitaire de certaines formes d'expression politique contrarie les représentations instituées de l'ordonnancement de la société et de son fonctionnement. Le thème de l'identité n'est bien évidemment pas complètement nouveau. Cela a été rappelé hier. Il y avait eu dans les années 70 un fameux séminaire au Collège de France organisé par Claude Lévi-Strauss en 74-75 sur cette question, l'identité, mais un séminaire qui ne réunissait pas de sociologues, puisqu'il y avait des ethnologues, des linguistes, des mathématiciens, des biologistes, des psychologues, et où, du reste, la conception de l'identité était fort éloignée de celle que va élaborer Michel Auriol dans son texte, puisque bon, Lévi-Strauss avait peu d'intérêt, finalement, pour des sociétés en mouvement, dans des sociétés où qui pouvaient être caractérisées par des flux. Il y avait eu aussi à peu près à la même époque qui était paru ce texte, ce colloque qu'évoquait Maryse Tripier hier à Toulouse, organisé par un psychologue, Pierre Tappe, avec 2 gros volumes qui en avaient été tirés, l'important sur l'identité individuelle, l'autre sur l'identité collective. Et justement, ce qui va faire l'intérêt du texte de Michel Auriol, c'est qu'il va montrer qu'il y a une interaction entre l'identité personnelle et l'identité collective. Aujourd'hui, ça peut sembler relativement évident, c'est même un acquis des sciences sociales. À l'époque où il l'écrit, c'est beaucoup moins le cas. Et puis, bien entendu, il y a le contexte de ces revendications identitaires, notamment des revendications identitaires qui seront celles des ouvriers des usines Citroën à Aulnay et Talbot à Poissy, où il est demandé notamment de pouvoir prier pendant les pauses qui, au début du gouvernement socialiste, susciteront beaucoup de commentaires très, très critiques et peut-être prépareront le pas à d'autres, enfin en tout cas libéreront une certaine forme de parole. Donc on est dans un contexte où l'on parle d'identité et de culture, comme on en parlera plus après, où on parle d'identité et de culture de façon positive. Alors, pour en revenir à cet article en particulier, Hier, il a été beaucoup question de reconnaissance et de difficulté du domaine des migrations, des relations interethniques à se constituer. Ce que je voudrais dire, c'est que ça n'a pas empêché cet article de Michel Auriol de faire son chemin, puisque si je considère un moteur de recherche comme Google Scholar, il est cité dans pas moins de 77 autres articles, ce qui est un score extrêmement important pour un article de 1985. Et de manière générale, être cité, avoir un texte cité 77 fois, peu d'auteurs peuvent s'en prévaloir, surtout que ce ne sont pas des autocitations. C'est un article qui a été cité aussi bien par des sociologues, des anthropologues, des psychologues sociaux qui se sont intéressés aux immigrés, à leurs descendants, en France bien sûr, mais aussi au Canada, en Colombie, en Côte d'Ivoire, en Israël, en Italie et au Chili. Alors, je voudrais discuter ce texte d'abord en le mettant en perspective avec les études sur les Portugais à l'école, à l'époque. Il y a aussi des études sur les jeunes Portugais à l'école, mais en tout cas, c'est à l'époque l'une des plus importantes populations étrangères en France. Le mettre en perspective également avec le rapport, les variations de l'identité dont il a déjà été question, dont j'espère qu'il sera bientôt mis en ligne également sur Percé. Et en reprenant aussi des éléments de la thèse d'État soutenue en 1989. Puis je développerai deux thèmes liés l'un à l'autre qui permettent de poser des questions essentielles sur la sociologie de l'immigration et la sociologie de manière générale. D'une part, comment, dans l'ordre des identités, le statut de la culture dans l'étude des comportements est mobilisé, et comment Michel Auriol, me semble-t-il, propose une conception du social comme étant constituée d'appartenances et des appartenances qui ne sont pas seulement le résultat de rapports sociaux de pouvoir. Quand Michel Auriol parle d'appartenance, ça n'est pas d'appartenance qui serait uniquement le résultat d'une production de l'altérité produite par la société majoritaire, par exemple. Puis le deuxième thème que je voudrais aborder, ce sera sur l'expression politique de la diversité culturelle, c'est un des thèmes qui est abordé aussi dans cet article, avant de terminer sur les recherches sur les Portugais depuis Michel Auriol et évoquer le statut des Portugais dans la recherche sur l'immigration en France. Alors, quand cet article, l'ordre des identités paraît, les Portugais sont arrivés de manière très massive en France depuis la fin des années 60. Alors, il y avait déjà des Portugais auparavant. L'historienne Marie-Christine Wolowicz-Tavares a montré, par exemple, que, il y a une présence significative de Portugais depuis la Première Guerre mondiale, avec des soldats démobilisés, puis avec des exilés politiques fuyant le régime de Salazar. Mais entre 1957 et 1974, la France devient, au détriment du Brésil, qui était au préalable la principale destination des Portugais, la France devient la première destination des Portugais et les Portugais, le plus grand groupe d'immigrés en France pendant une vingtaine d'années, puisqu'en effet, au cours de ces 17 années, 1,5 million de Portugais vont quitter le Portugal et 900 000 d'entre eux viendront résider en France. Ces Portugais sont originaires pour l'essentiel du nord du Portugal, à 80% de régions rurales. Ils fuient plus encore que la répression de la dictature salazariste. Ils fuient la grande pauvreté des villages dont ils viennent et pour les hommes, la perspective de 3 années de conscription dans l'armée portugaise qui, puisque le Portugal sera empêtré jusqu'au 25 avril 1974, date de la révolution des œillets, dans des guerres d'indépendance dans ce qui reste en Afrique de son empire colonial. Alors bien évidemment, cet article, l'ordre des identités, n'aurait pas été écrit si Michel Auriol n'avait pas dirigé une vaste enquête collective et interdisciplinaire sur les Portugais et sur la deuxième génération en particulier, enquête à laquelle participeront des collègues portugais, mais aussi Marie-Antoine Attili, ici présente, notre collègue de l'URMIS Albano Cordeiro et le géographe Michel Poinard, une enquête qui donnera lieu à un célèbre rapport qui sera publié en deux tomes qui paraissent à quatre années d'intervalle, 1984 et 1988. Et une des questions soulevées dans cette recherche collective est celle des ressources identitaires dont disposent les jeunes issus de l'immigration portugaise, qu'ils soient nés au Portugal ou qu'ils soient nés en France. Et c'est là aussi un des thèmes qui est au cœur de l'ordre des identités, cet article dont il est aujourd'hui question, et un article qui s'appuie plus précisément sur une enquête par questionnaire qui est menée auprès de jeunes portugais qui sont originaires de Guarda et qui résident en banlieue parisienne ou dans la région de Pau, dans le sud-ouest. Alors, cet article, comme tous les bons articles, entend répondre à une question. Il pose même une question dès la première ligne. Michel Auriol écrit ainsi: « Avec quel concept faut-il penser l'avenir des générations issues de l'immigration ?» Il se demande: est-ce qu'il faut parler d'intégration ou d'assimilation, de seconde génération ? Michel Auriol rappelle à ce propos que le choix des catégories exprime avant tout l'image que la société d'accueil se donne d'elle-même, en comparant le cas de la France avec celui des États-Unis, où les chances des immigrés sont idéalisées dans un pays qui se veut en changement constant, même si, comme nous le disait hier Johnson, le rêve américain, on y croit surtout quand on est endormi. Et évidemment, il y a une différence avec la France où, à l'inverse, les hiérarchies sociales sont perçues comme solidement installées et promises à se renforcer. Et pour Michel Auriol, les revendications identitaires des populations issues de l'immigration ne peuvent, ce sont ses termes, qu'introduire un sentiment de désordre dans une société française où d'autres catégories idéologiques prévalent. Alors, l'interrogation sur les identités de l'article naît de ce constat. Cette interrogation sur les identités, elle est néanmoins beaucoup plus développée dans les 150 pages de la contribution que signe Michel Auriol au début du premier tome de son rapport « Les variations de l'identité » et peut-être encore avec davantage de fermeté analytique encore dans le doctorat d'État de 1989 où il marque d'emblée sa rupture avec d'autres, avec le structuralisme et plus particulièrement avec le structuralisme de Michel Foucault. Puisque Michel Auriol affirme à la page 9 de cette thèse, je le cite, « Écrire sur les identités, c'est refuser ce paradigme pour reconnaître les sujets comme produisant du sens. » Alors, je voudrais revenir sur deux thèmes. Premier thème, c'est le statut de la culture dans l'étude des comportements et la façon de penser le social. En effet, Michel Auriol consacre une section de son article à dissiper la confusion qui existe, selon lui, entre culture et identité culturelle, bien qu'il ne donne pas une définition précise de ce qu'il entend par culture, il donne dans les faits, au terme de culture, dans cet article, le sens qui lui est généralement attribué dans les sciences sociales, à savoir, ce sont ces mots, je le cite là encore, un ensemble de traits qui ne sont pas toujours systématisés dans la mesure où ils proviennent d'apprentissages sociaux successifs, souvent peu contrôlés, voire même inconscient. Et l'identité dont il est question dans l'identité culturelle désigne, elle, autre chose, puisque cette identité existe, nous dit Michel Auriol, dans ces mots, je le cite encore, comme une norme d'appartenance, c'est-à-dire une opposition symbolique fortement confiance. De cela résulte-t-il, écrit-il, et c'est un point qui me semble capital dans son raisonnement, le fait que la culture peut aller sans conscience identitaire, alors que elle, l'identité, peut tendre à recréer une culture qui n'aura en fin de compte qu'un rapport lointain avec on ne sait quelle authenticité primitive. À cet égard, Michel Auriol défend et préfigure une position voisine, me semble-t-il, de ce qui s'est développé aux États-Unis bien après dans le courant de la sociologie culturelle, dont Michel Lamont est par exemple une des figures de proue, courant qui cherche d'une part à rendre compte de la diversité des formes par lesquelles les êtres humains s'expriment, et d'autre part à ne pas réduire les comportements et les pratiques des individus à des effets de la structure sociale. Et Michel Auriol, on le voit, est loin de toute forme de culturalisme quand il met en évidence l'importance de la culture dans la construction identitaire. C'est toutefois dans un article paru l'année précédente dans la Revue suisse de sociologie, et que la Suisse a su aussi reconnaître et publié Michel Auriol il y a bien longtemps. En tout cas, dans cet article de 84 dans la Revue suisse de sociologie, Michel Auriol insiste sur la dimension culturelle du social. Il relève en effet l'indifférence aux spécificités culturelles des immigrés dans la sociologie de l'immigration, la sociologie de l'immigration qui, à cette époque, lui semble avoir abandonné ces questions à l'ethnologie. Or, c'est le point sur lequel il me paraît important d'insister, puisque ce sont justement ces spécificités culturelles qui permettent de ne pas indifférencier les migrants dans une matrice fonctionnaliste ou économiciste qui ignore leur subjectivité et par rapport à laquelle, bien évidemment, Michel Auriol s'inscrit en contre. Pourtant, comme le montre l'enquête sur les jeunes descendants d'immigrés portugais, la référence à la culture se caractérise par la grande diversité de ses usages. Il a rappelé lui-même hier la grande diversité des façons de se dire portugais. L'identité culturelle ne définit pas en effet un groupe homogène pour Michel Auriol. Cette identité culturelle fournit bien davantage des ressources identitaires qui permettent à chaque individu de se situer dans un cadre collectif, ou parce que il l'écrit dans des termes beaucoup plus précis que ce que mon commentaire pourrait apporter. Il écrit dans cette revue suisse de sociologie: proclamer une identité n'est rien d'autre que se réclamer d'une certaine épaisseur d'histoire et réintroduire par là une multidimensionnalité dans sa position en tant que sujet social. C'est à ce sujet, c'est un point là encore particulièrement important, que Michel Auriol prend soin de souligner ce qui lui semble une erreur de Pierre Bourdieu, quand Pierre Bourdieu réduit les revendications identitaires à un retournement du stigmate ou le dominer, parce qu'il serait victime du racisme et de la discrimination, en serait réduit à ériger en emblème les marques dont le dominant l'afflige. Mais là encore, la discussion avec Bourdieu n'est pleinement développée que dans la thèse soutenue 4 ans plus tard, dans laquelle Michel Auriol revient sur la propension de Bourdieu à ramener les conflits de catégorisation à des luttes de classement, et surtout la propension de Bourdieu à méconnaître les dimensions symboliques à travers lesquelles l'identité se construit, en attribuant une place excessive aux usages instrumentaux de l'identité. C'est encore dans cette thèse de 89 qu'au fond le débat est encore plus poussé, parce que de toute façon dans une thèse il faut écrire, on a plus de place pour écrire que dans un article. C'est aussi dans cette thèse de 89 que Michel Auriol souligne à la fois ce qui le rapproche mais aussi ce qui le différencie d'Abdelmalek Sayad, notamment pour préciser que celui-ci apporte des nuances tout à fait utiles par rapport à Pierre Bourdieu, et qu'il fait un usage moins utilitaire que Bourdieu de l'identité sociale. Mais en même temps, Michel Auriol montre que la théorie de Sayad ne fonctionne pas à propos des jeunes portugais. C'est-à-dire que le rapport à l'identité des jeunes portugais, la façon dont les jeunes portugais mobilisent les ressources identitaires sont différente de celle de la façon dont les jeunes issus de l'immigration maghrébine mobilisent leurs ressources identitaires. Alors cela m'amène à un autre point essentiel, parce que c'est une position forte à une époque où l'on commençait à se méfier de l'expression identitaire et plus encore politique des jeunes issus de l'immigration. Le choix de problématisation du social qu'opère Michel Auriol est tout à fait intéressant dans la mesure où c'est la lecture que je crois faire de ces travaux, de cette époque-là en tout cas. Le social, tel que le pense Michel Auriol, n'est pas seulement fait de rapports sociaux de pouvoir qui produisent de l'altérité. Bien sûr qu'il y a des rapports sociaux de pouvoir, bien sûr qu'il y a de la production de l'altérité, mais il y a aussi des appartenances qui permettent aux individus et aux groupes de construire des identités personnelles et collectives en interaction les unes avec les autres, et ces individus auraient peuvent, grâce à ces ressources identitaires, grâce à ces appartenances, construire un ordre, se mouvoir dans un contexte où l'anomie les guette. Alors, les référents culturels identitaires des Portugais sont puisés dans l'usage de la langue, dans la pratique du catholicisme, dans des références à l'histoire du pays. Le Portugal est le pays d'Europe qui a les plus anciennes frontières nationales, puisque le Portugal a des frontières nationales depuis 1143, et puis que la langue portugaise s'est stabilisée finalement plus tôt que beaucoup de langues européennes. Les mythes fondateurs de l'identité portugaise et de l'histoire du Portugal sont aussi toujours fortement ancrés dans sa population, même si les travaux de l'historien indien Sanjay Subramaniam ont sérieusement écorné depuis quelques années le mythe de Vasco de Gama. Mais c'est un fait, cet intérêt pour les appartenances, c'est tout à fait notable et je pense est intéressant parce qu'il a aujourd'hui en grande partie perdu de la force en tant qu'intérêt scientifique dans les sciences sociales contemporaines. Et il y a peut-être une piste pour expliquer cela qui se trouve à la page 33 de la thèse de Michel Auriol, quand il dit « La question de la modernité politique a obscurci le problème de l'appartenance à mesure qu'elle se centre sur le thème de la légitimité. Et un second problème tient selon lui à ce que la philosophie politique et la politologie ont confondu le problème de l'appartenance nationale avec celui des idéologies nationalistes. » Alors, cela m'amène au second thème que je voulais développer, c'est celui de l'expression politique de la diversité culturelle. Michel Auriol est, je l'ai dit, un sociologue qui pose de grandes questions, ce qui est déjà remarquable, mais ce qui est encore plus rare, il apporte des réponses précises. Par exemple, il pose comme question, vers la fin de son article, « Que faire donc d'une identité que ne caractérise comme telle ni projet politique ni éthique sociale ?» C'est une question à laquelle il répond ces termes. Il écrit en effet « Le rôle d'une identité peut consister à promouvoir la capacité de l'individu d'organiser les décisions qui gouvernent sa vie en fonction de la maintenance de cadres collectifs d'existence et de représentation. » Alors, on repère là l'importance des travaux de psychologie sociale dans le travail de Michel Auriol. Il y a été fait référence hier, ainsi que d'autre part, l'influence de Marcuse qui n'est pas mobilisé dans ce texte de la Rémy, mais dans l'article paru l'année précédente dans la revue Suisse de sociologie, où Michel Auriol rappelle, pour Marcuse, un groupe dominé est peut-être capable de disposer du souvenir de sa propre histoire et alors conserve la capacité de concevoir et de promouvoir un autre avenir que celui qu'on lui assigne à partir d'une rationalité dominante. Ce que l'on peut ajouter au fond, c'est que si cette dernière partie de l'ordre des identités est particulièrement intéressante, c'est que Michel Auriol y opère un passage d'une analyse de l'état social dans lequel vivent diversement ces jeunes Portugais, un passage de cet état social au plan politique, et cela même si ceux-ci ne lui paraissent pas portée de projets politiques. Alors ça, c'est un point qui a pu être discuté postérieurement par notre collègue Albano Cordeiro, qui a proposé une analyse tout à fait originale, mais malheureusement peu connue, de Convergence 84 pour l'égalité, de l'organisation des marches des années 80, où il y avait beaucoup de jeunes Portugais, mais où ceux-ci n'ont pu, selon Albano Cordeiro, porter une revendication politique plus radicale, notamment centrée sur la revendication d'une société multiculturelle, mais où ils n'ont pas pu véritablement se faire entendre en raison de tout un tas d'éléments internes à la dynamique de cet ensemble de mouvements. Mais laissons de ce point de côté, qui est pourtant intéressant, puisque ce qui est beaucoup plus intéressant encore dans l'article de Michel Auriol, c'est le fait, même s'il n'utilise pas ce terme, c'est que il perçoit la France comme étant une société multiculturelle. En 1984, ce n'est pas là encore chose fréquente, et il pose la question des minorités dans un pays, dans une sociologie où le thème des minorités, évidemment, est encore tout à fait marginal quand il n'est pas fortement condamné. Alors, la question du vocabulaire utilisé est d'ailleurs aussi tout à fait intéressante. Michel Auriol ne parle en 1985 pas encore d'ethnicité, ni même de multiculturalisme. Or, c'est pourtant, me semble-t-il, d'ethnicité dont il est question quand il parle d'appartenance et d'identité. Et c'est au fond à une sorte de multiculturalisme à la française que Michel Auriol en appelle, me semble-t-il, lorsqu'il écrit que la France ne saurait s'accommoder des exemples nord-américains où la persistance des liens communautaires est en fait beaucoup plus souvent fondée sur les affiliations religieuses que sur des relations proprement associatives ou le registre du droit. Et à ce sujet, Michel Auriol s'appuie sur une recherche de Marie-Antoinette Illy et Michel Poinard sur le mouvement associatif portugais qui est alors en plein essor et qui a joué un rôle essentiel dans l'installation des Portugais en France, même s'il a aujourd'hui considérablement perdu de sa vigueur. Et c'est néanmoins à une remise en cause du modèle politique français et à la nécessité de la création de nouveaux modèles politiques que Michel Auriol appelle de ses voeux quand il termine son texte en écrivant, je le cite une dernière fois, « On peut ainsi faire de cette fameuse, entre guillemets, identité française que l'on prétend menacer, s'affirme encore une fois à partir de ce que son histoire a préparé, c'est-à-dire l'invention de modèles politiques exemplaires dans un monde où la circulation des personnes deviendra inéluctiblement de plus en plus intense. » Alors il faut d'ailleurs noter que cette considération proprement politique par laquelle Michel Auriol clôture son propos est étayée à la fois sur la prise en considération de la singularité française et sur celle de sa diversité culturelle, singularité du cas français, diversité culturelle de sa société, qu'il fait ressortir dans son texte par des comparaisons bien choisies. Comparaison d'abord avec les États-Unis, au début et en fin d'article, pour montrer ce qui rapproche, mais surtout différencie les deux pays. Comparaison ensuite avec les Italiens, ces immigrés européens qui ont précédé les Portugais, dont Auriol souligne que l'insertion dans la société française s'est faite en même temps qu'était temporairement maintenue une dualité d'appartenance faite de retours périodiques au pays, d'une forte endogamie et de projets économiques. Comparaison enfin avec les immigrés du Maghreb à partir des travaux notamment de Jocelyne Streff-Fénard qui montrait que la révision des normes d'endogamie en situation migratoire se faisait néanmoins en gardant une référence à l'appartenance. Ce que Michel Auriol avait en fin de compte bien compris avant d'autres, c'est que les appartenances, si elles ne les rendent pas inaltérables sur la durée, possède une consistance et une force que d'autres constructions politiques ont ordaignées. Et si on lit le doctorat d'État de Michel Auriol, on peut même faire l'hypothèse qu'il a sans doute acquis cette conviction bien avant d'écrire cet article de 1945, puisque je vais me permettre d'évoquer une anecdote que Michel Auriol évoque dans sa thèse, dans le premier encadré de sa thèse. Il fait référence à un souvenir qui date de l'année 1946, où jeune étudiant en philosophie à la Sorbonne, il passe un oral et où il est interrogé par le professeur Maurice Patronnier de Gandillac. Maurice Patronnier de Gandillac qui l'interroge sur la possibilité d'un universel moral et politique Et Michel Auriol, qui fait état, il était question aujourd'hui de quel était l'engagement politique des gens de l'IDERIC. Dans la thèse de Michel Auriol, cela est évoqué. Il évoque un engagement trotskiste débutant et répond à Maurice Patronnier de Gandillac l'expérience de la guerre invite au dépassement des morales qui défendent les États, mais Maurice Patronnier de Gandillac lui répond que ce que la guerre semble avoir plutôt montré, c'était que les solidarités nationales étaient finalement plus fortes que les solidarités de classe. Donc je pense que peut-être dans cet oral de licence, vieux de 70 ans, il y avait déjà l'idée qu'il y avait des formes d'appartenance qui avaient une consistance particulièrement forte. Je terminerai sur les recherches sur les Portugais en France après ce texte de Michel Auriol. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps.
Encore 5 minutes.
Ça ira. Alors, ce n'est pas l'objet de l'intervention d'évoquer tout ce qui s'est écrit depuis la publication de l'Ordre des Identités. Il y a eu des recherches tout à fait notables, à commencer par celle d'Yves Charby, Marie-Antoinette Tilly et Michel Poinard, qui a été réalisé au début des années 90 et qui paraît en 1997 sous le titre du va-et-vient identitaire, qui comprend de nombreux thèmes, mais qui, à certains égards, prolonge l'ordre des identités de Michel Auriol en insistant sur le fait que l'intégration des Portugais en France réside dans la solidité des liens que la plupart maintiennent avec leur village d'origine. Une dizaine d'années plus tard, une thèse, celle de Malika Guémaz, va porter sur le vote des Portugais en Europe du Nord. C'est une thèse qui est soutenue en 2008 et elle va mettre en évidence la très faible participation politique des Portugais en Europe, puisque ceux-ci sont rarement inscrits dans les consulats, même si les jeunes Portugais de nationalité française, eux, votent beaucoup plus et selon l'enquête d'Anne Muxel, il semblerait que 50% de ceux d'entre eux qui allaient voter pour la première fois en 2017 avaient l'intention de le faire pour Marine Le Pen, même s'il y a aujourd'hui des associations d'élus portugais, aussi bien de gauche et de droite, en tout cas que c'est aussi une immigration. Enfin, les descendants portugais sont aussi organisés en association selon les familles politiques. Et puis plus récemment, il y a la thèse de notre collègue de l'URMIS, Irène dos Santos, soutenue elle en 2010, qui a constaté, 30 ans après la recherche qui a donné lieu aux variations de l'identité, la persistance chez de jeunes adultes, petits-enfants et enfants du migrant portugais, d'identités sociales qui sont porteuses d'appartenance et parallèlement l'affirmation en France d'une identité collective puisant dans l'histoire nationale lointaine du Portugal et passant sous silence l'histoire familiale et communautaire. Alors le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que le travail dirigé par Michel Auriol sur les Portugais est particulièrement intéressant, c'est que finalement, dans les recherches sur l'immigration en France, on peut dire que les Portugais ont un sort peu enviable. Peu enviable, pourquoi ? Parce que d'abord, ils sont peu étudiés, si on les rapporte à leur importance numérique. Selon le consulat du Portugal, si l'on prend en considération les Portugais résidant en France, de nationalité portugaise, les binationaux, et les Français qui ont au moins un ascendant né au Portugal, on est en présence d'une population d'1,2 million personnes, ce qui n'est pas rien. En revanche, il y a très peu de recherches qui ont été faites à leur propos. Mais si je parle du sort peu enviable des Portugais dans les études migratoires, c'est que très souvent, malheureusement, ça serait mieux qu'on n'en parle pas. Parce que quand on en parle, c'est pour leur faire jouer le mauvais rôle, celui de gens racistes qui dominent les autres populations, faisant un mauvais usage ou en mobilisant des enquêtes qui comparent les trajectoires. Je ne parle pas de l'enquête Théo, mais plutôt de certains usages qui peuvent être faits pour caricaturer les Portugais et leur assigner véritablement une place tout à fait désagréable, alors que les indicateurs eux-mêmes de l'enquête Théo, notamment ceux portant sur la santé, montrent que ce sont ceux qui déclarent le plus de problèmes de santé. Mais je pense encore à une autre thèse qui a été préparée à l'URMIS, à la thèse de Nicolas Jounin sur le bâtiment, et j'en ai discuté avec lui. Bon, il montre bien que les Portugais ont une position de domination sur les chantiers dans le bâtiment, mais ça n'est pas pour discréditer les Portugais. Or, bien souvent, les gens qui utilisent cette partie-là de la thèse de Nicolas Jounin, c'est véritablement pour une stigmatisation des Portugais. Or, la recherche de Michel Auriol, je pense, avait quand même une toute autre problématisation des Portugais. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit qui était beaucoup plus généreux quand il s'intéressait à cette population qui, comme l'a montré une thèse encore plus récente qui a été soutenue par une Portugaise, Inès Espirito Santo, en 2013, les Portugais ont été construits par la suite de façon essentialiste en France dans le cadre d'une série d'interactions avec les autres groupes minoritaires, la population majoritaire et notamment le patronat. Donc j'en resterai là pour dire que lire Michel Auriol, c'est découvrir une autre façon, redécouvrir une façon de faire des sciences sociales, de poser des questions sans nécessairement s'embarrasser de longs développements sur le matériel empirique. C'est vrai que le matériel empirique est peu mobilisé dans cet article. Et ce sur quoi aussi je voulais insister, c'est que moi, il a été beaucoup question hier de la difficulté avec laquelle le domaine avait eu du mal à se... Enfin, le domaine de recherche de l'IDEREC, et l'URMIS par la suite avait eu du mal à s'institutionnaliser. Néanmoins, quand on regarde les articles des fondateurs ou des premières générations, on s'aperçoit qu'ils ont fait leur chemin. Ils ont fait leur chemin et ils restent. Par exemple, Véronique de Ruder, l'inégalité raciste, 237 citations. Ça n'est pas rien, c'est un chiffre énorme. Donc il y a, au fond de temps, il y a le sentiment de manque de reconnaissance qu'on peut avoir au moment où on travaille. Et puis, quand on regarde sur la durée, les travaux restent. Et c'est là-dessus que je voulais conclure. Voilà. Thank you.